カピンポカピン。
C'est sans transition, nous passons à l'émission des Nogantos Congolais avec Jean-Claude Bumba qui a mandé à la présentation.
Bonsoir, cette personne tuée, donc 6 civils congolais et un rebelle ougandais, bilan de la nouvelle attaque de rebelles ougandais de la LRA, dimanche dernier à Dungu dans la province orientale. Ces personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre les rebelles de la LRA et les jeunes congolais de la localité de Bangazi, organisés en groupe d'autodéfense. La localité de Bangazi est à 125 km au nord de Dungu. Dungu, territoire du Haut-Kulele, il est lui situé à 800 km au nord de Kisangani. Nous sommes à la frontière avec le Soudan et la République centrafricaine. Réaction de la Cour pénale internationale, Tlefoni, chef de ces rebelles ougandais de la LRA, armée de résistance du Seigneur, ainsi que ses principaux commandants, doivent être arrêtés après ces attaques. Alors, à quand le déploiement de l'armée nationale réclamée par la population de cette contrée, l'arrestation de Joseph Kony, leader de ces rebelles, telle que prônée par la Cour pénale internationale, peut-elle mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays? C'est le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Merci à tous pour vos réactions. On en parle également dans cette émission avec, pour invité, Joseph Bangatia, il est vice-gouverneur de la province orientale, Donatien Kani Mbia, député national MSP, élu du territoire d'Arou dans la province orientale. Il est aussi vice-président de la sous-commission chargée de l'intégration régionale à l'Assemblée nationale. Et puis nous aurons l'abbé Benoît Chinalego, président de la commission diocésaine de justice et paix de Dungu, toujours dans la province orientale. A tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Je vous l'ai dit, cette personne tuée, dont 6 civils congolais et un rebelle ougandais, bilan de la nouvelle attaque de rebelles ougandais de la LRA, c'était dimanche dernier à Dungu dans la province orientale. À quand le déploiement de l'armée nationale, tant réclamé par la population de cette contrée? C'est la première partie de cette émission, mais revenons d'abord aux faits. Je vous rappelle, cette personne, dont 6 congolais et un rebelle, ont trouvé la mort dimanche dernier dans la localité de Bangadi, à 125 km au nord de Dungu. Cette localité a été victime d'une attaque des rebelles ougandais qui l'avaient investi aux petites heures du matin. Le comité de sécurité du Haut-Kulele plaide pour le déploiement rapide des militaires de l'armée nationale dans cette localité. Jacques Mukonkole nous fait le point de cette attaque.
Les rebelles ougandais sont entrés dans la localité de Bangadi dimanche très tôt le matin à 4 heures d'après des témoignages recueillis à Dungu. Ils ont pillé cette localité avant de poursuivre leur ravage et l'incendie des maisons dans les localités voisines de Makosa et Zangaïmé. Révoltés contre la destruction de leurs biens, les jeunes gens ont décidé de tendre une embuscade aux rebelles à leur retour de Makosa. Il s'en est suivi alors un accrochage qui s'est soldé par la mort d'hommes. Le commissaire du district du Haut-Kulele parle de 6 villageois ainsi qu'un rebelle ougandais tombé au cours de cet affrontement. Un autre villageois grièvement blessé est interné dans une formation médicale de Niangara. Cet incident a provoqué le déplacement des villageois. Au moins 2118 personnes sont arrivées dans la cité de Niangara. Le commissaire de district dit avoir proposé ce lundi au gouverneur des provinces le déploiement des éléments FARDC à l'intérieur du territoire de Dungu pour la sécurisation des populations. Jusque-là, ceux-ci sont basés à 45 km de la cité de Dungu, dans la localité de Ngilima, elle aussi victime d'une attaque meurtrière hier de Elera en septembre dernier. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci Jacques Mukonkole. Rappelons les 3 personnes qualifiées de rebelles tuées dimanche 6 octobre dernier par les habitants du chef-lieu de Dungu, territoire, je voulais dire, plus de 800 km au nord-est de Kisangani. Selon la société civile locale, ces 3 personnes, dont une femme accusée de servir d'éclaireur de l'armée de résistance du Seigneur Elera pour la reconnaissance du milieu, ces personnes se rendaient à la résidence du chef de groupement Dungu lorsque la population les a appréhendées. Ajoutons à cela la centaine d'écoliers enlevés par les mêmes rebelles ougandais il y a un mois dans ce territoire de Dungu. Alors, question à nos invités. Nous commençons par Donatien Kani Mbia. Bonsoir. Je l'ai dit, vous êtes député national du MSC, élu du territoire d'Arou. Comment expliquer cette énième attaque des rebelles ougandais alors que les FARDC ont été déployés dans ce territoire?
Oui, c'est bien déplorable, hein, mais je pense qu'il faut commencer par situer la situation dans son contexte global. Vous savez que depuis qu'on a accédé à la Troisième République, il y a eu un recul, je dirais, systématique sur le plan sécuritaire. Cet recul est dû à une erreur stratégique qui était commise, erreur selon laquelle Donc, on a tenté de faire décoller le pays sur base d'une hypothèse incorrecte. Hypothèse sur laquelle la guerre était finie et qu'il ne restait plus que la reconstruction. C'est bien. Et pourtant, notre pays se retrouve dans un espace sous-régional empêtré jusqu'ici dans des systèmes de guerre. Je m'explique. La RDC, l'Ouganda, les Rwanda, les Soudan, les Burundi, pour ne citer que ces états-là, sont jusqu'ici chacun en train de faire face à au moins une rébellion active, située soit sur le territoire national, soit sur le territoire voisin, et chacune de ces rébellions est en train de bénéficier des soutiens directs ou indirects de l'un ou l'autre de ces états. C'est complexe. Et le malheur particulier de notre pays, la RDC, c'est que certains de ces états ont réussi à déplacer leur guerre sur notre territoire. C'est le cas de LRA, ça c'est la guerre ougandaise qui est déplacée. C'est le cas de FDLR, ça c'est la guerre rwandaise. Et voilà le Mbororo, c'est peut-être la guerre soudanaise, tchadienne et tout ça. Tous ces éléments d'analyse ne sont pas nouveaux. On n'a pas pu faire cette analyse en conséquence avant que, pour la Troisième République, les grandes priorités ne soient définies. C'est ici que lorsqu'on a défini les grandes priorités qu'on appelle les cinq chantiers, on n'a pas réalisé la sécurité. C'est quoi les cinq chantiers? Ça, c'est l'infrastructure, l'emploi, la santé, l'éducation et l'électricité. On n'a pas mis l'accent sur la sécurité.
Merci, alors, monsieur le député. Oui, alors, terminez alors, voici rapidement.
Voilà, je dis que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on aurait pu, dans un contexte comme celui-ci, comprendre qu'il fallait commencer par jeter les fondements de l'État et cela à travers une armée bien organisée, à travers un système sécuritaire conséquent pour créer les conditions de reconstruction. Je vais tester l'élément, s'il vous plaît. L'élément, c'est que normalement, si on avait compris ça, on n'aurait pas accepté de confiner des réformes importantes comme celle de l'armée et de l'administration territoriale qui est le sous-bassement de la sécurité intérieure dans le petit budget. On aurait pu faire autant qu'on a fait pour la reconstruction, cherchant même des fois ailleurs, afin de faire avancer ces réponses. C'était une erreur stratégique dont les conséquences sont en train d'être subies jusqu'ici par la
population. Je vais poser la même question à Joseph Banglatia, vice-gouverneur de la province orientale. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir, mon ami.
Voilà. Comment expliquer, je vous repose la même question, parce que l'attaque de la LRA, la dernière attaque donc de dimanche, c'est une attaque d'après les informations que nous avons reçues d'un responsable de la société civile à Dongou, c'était une attaque annoncée. Comment pouvez-vous expliquer cela alors que un mois avant, une centaine de colis venaient d'être enlevés, et même une semaine après, c'était 3 personnes tuées dans Dongou. Comment vous l'expliquez-vous en tant qu'un des responsables de la province?
Bien entendu, je vais plutôt répondre au fond de la question, car c'est cela qu'attendent les Congolais et les Congolais. Et je ne vais pas faire, de spéculation sur toutes les situations, car vous savez, il y a à boire et à manger, car par exemple, la situation dramatique que nous vivons à l'Est, pour le cas de Mororo, cela date des années 2000, où l'espace en question était occupé par une rébellion devenue parti politique. Bon, il y a des responsabilités à établir. Le dossier est pendant, bien entendu. Et mêmement pour la LRA,
mais c'est fait longtemps que le ministère de la Bélan n'existe plus.
Oui. Bon, on ne va quand même pas effacer l'histoire, mon cher ami. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes un gouvernement responsable et que je note que c'est avec ce nouveau gouvernement que ce problème est pris à bras le corps, car c'est cela que les Congolaises et les Congolais attendent. Qu'est-ce que nous avons fait? Je suis parti sur ordre du gouvernement de la République, réuni en conseil des ministres à Matadi, et après mandat du gouvernement de province, personnellement à Dongo, et je suis arrivé pratiquement jusqu'à la frontière, à Doruma et dans le parc, pour prendre cette situation à bras le corps.
Alors vous avez rencontré aussi les personnes détachées?
Oui, bien entendu. Et mon ami Benoît va intervenir. Oui, bien sûr. Et c'est à l'issue. Oui, je crois que nous avons un invité qui est de la société civile qui n'a pas intérêt à mentir, qui va confirmer
vos propos. Non, je ne dis pas que vous mentez.
Oui, écoutez-moi bien, je suis dans l'action républicaine. Les Congolaises et les Congolais n'attendent pas des discours. Moi, je vous dis ce qui se fait. Ce que nous avons fait, c'est que, juste moi, vice-gouverneur, je suis arrivé dans tous les sites, même les plus exposés, au péril de ma vie. En revenant, nous avons fait rapport au Conseil de sécurité de la province et nos propositions ont été validées par le Conseil supérieur de la défense et le gouvernement. C'est ainsi qu'après plus de 10 ans de non-État, actuellement, nous avons des troupes par décès dans le territoire de Douma. Donc, c'est pour dire que ce problème, nous allons le régler dans ses racines. Et bien entendu,
ce sont des troupes qui étaient là, qui n'ont pas empêché justement à ce que cette attaque de dimanche ait lieu.
Oui, elle est regrettable et vraiment, ma première pensée va vers la population qui est courageuse. Car ce qui s'est passé dimanche, c'était très courageux. Bien sûr, nous déplorons les victimes. Nous allons tout mettre en œuvre. Nous avons des troupes. Vous savez, avec l'armée, il faut éviter l'impréparation. Parce qu'il faut bien que ce problème soit réglé. Et donc, l'armée est en phase d'approche. Nous occupons le terrain. Il y a 5 mois, quand je disais au mois d'avril que l'armée viendrait, que nous allons bouter la LRA dehors, même la population de Dungu croyait que c'était des promesses.
Oui, mais on a quand même l'impression que c'est comme un défi qui a été lancé au FARDC, parce que je rappelle, hein, d'après l'information que nous avons reçue, c'était une attaque annoncée que les LRA allaient attaquer. Et lorsque la population se constitue en groupe, là je parle des jeunes de Dungu, lorsque ces jeunes se constituent en groupe d'autodéfense, est-ce que finalement, ce n'est pas un signe d'abandon de la part de cette population?
Non, moi je vous dis que ce problème date de je crois, des environs des années 1997-98. Et 10 ans plus tard, nous sommes les premiers à avoir pris la mesure de la situation. Nous avons déployé, au final, nous aurons, n'ose même pas citer le nombre total de militaires, mais ils sont là, en phase.
Ils sont là, mais ce sont des gens qui sont défendus et qui ont... C'est un sacrifice parce qu'ils sont, morts.
Oui, la vérité est que le déploiement se fait selon un plan stratégique et il faut un support logistique. Mais très bientôt, nous mettons les bouchées doubles. Très bientôt, nous aurons rapidement couvert tout le territoire de Dungu. Et je vous promets que l'année prochaine, au plus tard, on ne parlera plus de la LRA dans le territoire de Dungu et dans la province orientale.
C'est une promesse, j'imagine, qui doit être bien accueillie par Nabé Benoît, qui est la Lego.
Et ce n'est pas une promesse, je vous dis que nous y travaillons.
Monsieur Nabé, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, monsieur Nabé, vous êtes président de la commission diocésaine Justice et Paix de Dungu dans la province orientale. Nous revenons encore sur ce sujet avec cette dernière attaque qui a fait des morts. Et qu'est-ce que vous pensez des promesses faites par le vice-gouverneur de votre province, hein, la province orientale, Joseph Bangakia, qui dit au plus tard l'année prochaine, il n'y aura plus de cas d'insécurité à Dungu?
Oui, il faudrait savoir aussi qu'on parle de cette mort dans LRA, mais il faudrait retenir ceci, que ça c'est bilan provisoire, parce que jusqu'à maintenant, aucune personne n'est arrivée sur le terrain pour évaluer les dégâts commis par les LRA. Et je vous dis que par-ci par-là, j'ai des messages selon lesquels il y a plusieurs morts. Il n'y a pas seulement cette mort, il y a plusieurs morts, et l'hôpital de Bangadi même a été mis en sac. Mais quant à, pour revenir à ce que dit l'excellence monsieur le vice-gouverneur, mais je pense que c'est bien que ça relève de la stratégie militaire et que nous, la société civile, selon notre désirata, nous voudrions que la réaction soit opérationnelle, puisque ça tarde à venir, la population elle-même de Dungu est endeuillée. Et les populations vivent dans l'errance, elles ne bénéficient d'aucun soutien humanitaire, tant national qu'international. Et bon, dans cette ambiance-là, et pour nous, nous prenons toutes déclarations, et nous les respectons, et nous les gardons, mais de toutes les façons, nous reconnaissons aussi que nous sommes presque, pour le moment, abandonnés à nous-mêmes.
Vous êtes abandonnés à vous-mêmes, mais nous apprenons quand même qu'il y a des FARDC sur place à Dungu.
Depuis les attaques meurtrières du 27 et du 17 septembre et jusqu'à là, nous observons ce qui se passe. nous mourons, tout le monde est en train que nous mourons. Mais est-ce que ne pas activer à neutraliser cette force qui ne fait qu'arriver la population? Et de plus en plus, c'est une, je vois comme une occupation progressive, peut-être comme le gouverneur l'a dit, pour espérer à sa police.
Alors, on a un petit problème de ligne avec l'abbé Benoît Kinalego. Peut-être on va revenir à l'abbé Benoît Kinalego après, le temps qu'on harmonise un peu, qu'on arrange sa ligne. Mais Donatien Kanindia, député national MLC, malgré la présence des pharmaciens, la population à travers le président de la commission diocésaine, le CCP de Dungu, se sent toujours abandonné. Comment expliquer ça?
Monsieur, ce qui est très étonnant, ce qui est quelquefois gênant, c'est le fait que ceux qui sont à l'exécutif de ces pays au niveau national, professeur malheureusement de la professeure Atalisi, ont donc l'impression d'avoir la maîtrise de toute la situation alors qu'on ne maîtrise rien au cours des événements. Et puis, il y a le fait de chercher toujours des boucs émissaires. Mais dit, la rébellion, MLC, tout ça, ça fait plus de 2 ans que l'intérim de pouvoir est entre les mains de ceux qui sont effectivement au pouvoir. Est-ce qu'il faut justifier la situation d'aujourd'hui par rapport à... Non, je pense que c'est ce qu'on appelle une coupe de responsabilité. Nous sommes devant des questions sérieuses. On n'a pas besoin qu'on puisse exploiter le malheur de la population pour commencer à combattre n'importe quoi. Le problème, c'est que, dit, ça fait plus de 2 ans que la 9e région militaire est là, et il y a des décisions légitimes, la population souffre. D'ailleurs, le vice-gouverneur vient de souligner un élément qui est très important, comme quoi ils avaient mis le NRA à garde. Je l'ai souligné ici la fois passée. Comme quoi, ce sont eux qui sont en fait à l'origine de cette réaction. Parce qu'ils ont mis le NRA à garde sans prendre des précautions pour protéger la population. Ce sont des erreurs stratégiques. C'est parce qu'on est dans le fatalisme, on donne les pressions qu'on maîtrise, ou alors qu'on ne maîtrise rien. On ne prend pas des dispositions, mais on fait des déclarations, et la population se retrouve à la portée des rebelles, ils se vengent, et tout ça, on est en train de faire quoi. Et puis tout ça, on appelle stratégique. Qu'est-ce que c'est alors la stratégie?
Alors, M. le vice-gouverneur, José Barraca, vous courez derrière des événements, vous prenez rien pour prévenir ce genre d'attaque, ça c'est... Répondez d'abord à cette question, parce qu'après, on va vous demander ce que sont devenus les enfants qui ont été enlevés, ce que vous avez fait.
Bien, comme vous le comprenez, j'ai une approche pragmatique, républicaine et de l'action. Je ne vais pas entrer, je pense que ce n'est vraiment pas le moment de la polémique politicienne. Bien entendu, s'il faut le dire, je ne crois pas que nos amis du MLC, lorsqu'ils ont administré la partie nord de la province frontale,
c'est du passé.
C'est du passé. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que on doit plutôt parler du problème présent et ne faire de procès de personne.
Okay. Alors, est-ce qu'il y a des actions prises pour prévenir ce genre d'attaque?
Premièrement, je vous dis, en quelle langue je dois le dire?
Vous parlez français.
Oui. Que c'est avec nous que pour la première fois, nous prenons nos responsabilités et que nous réglons ce problème dans ses racines. Et je vous ai dit qu'au mois d'avril, j'ai fait le déplacement là-bas. À mon retour, nous avons proposé au gouvernement qui a accepté le déploiement d'une zone opérationnelle. Les éléments sont là, mais mon cher ami, soyons pragmatiques. Donc, je dis que le territoire de Dungu, il est vaste. Nous sommes en phase de déploiement de nos éléments.
Donc, c'est encore fini, le déploiement.
Oui, mais sitôt arrivés à Dungu, ils doivent occuper tout le terrain. Et donc, c'est cela que nous faisons. Et actuellement, nos militaires sont basés, se déploient sur plusieurs axes et avancent petit à petit. Et c'est parce que l'abbé Benoît n'est pas en ligne.
Il est déjà en ligne.
Oui, nous avons travaillé avec lui. Nous sommes en échange permanent. Je réponds toutefois à ses préoccupations. Le gouvernement provincial, parce qu'on a parlé de soutien humanitaire.
Ouais.
C'est vrai. Au niveau national, ils prennent.
On va arriver à la question humanitaire. D'abord, la question sur les enfants. La centaine d'enfants écoliers enlevés. Qu'est-ce que vous avez fait pour savoir au moins ce qu'ils sont devenus?
Non, bien entendu, vous comprenez très bien que les espaces qui sont situés vers le nord, l'extrême nord, ne sont pas encore entièrement, ne sont pas du tout encore sous l'autorité de l'État. Car il faut bien que nos forces armées et notre police y soient, ce qui n'est pas le cas. Et je le rappelle, c'est une situation vieille de plus de 10 ans, et maintenant, le gouvernement légitime a pris ses responsabilités, nous avons déployé des troupes, nous avons, nous, gouvernement provincial, au nom du gouvernement de la République, dépêché un soutien, certes modeste, mais quand même, il faut le dire, humanitaire, et je constate qu'avec l'apport de la société civile, qu'avec le réveil citoyen de la population, qu'avec certaines ONG comme MSF qui commencent à venir, je me rends compte que, en tout cas, le problème commence à être traité et que, bien entendu, il faut activer car c'est intolérable et la population ne peut pas continuer à souffrir ainsi.
Merci beaucoup. Cette personne tuée, dont six civils congolais, un rebelle ougandais, bilan de la nouvelle attaque des rebelles ougandais de la LRA dimanche dernier à Dungu dans la province orientale. L'arrestation de Joseph Kony, leader de ces rebelles, tel que prôné par la Cour pénale internationale, peut-elle mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays? Nous en parlons tout de suite après ce rappel de notre contact.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'arrestation de Joseph Kony, leader de ces rebelles ougandais de la LRA, telle que prônée par la Cour pénale internationale, peut-elle mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays? C'est la question principale de cette deuxième partie de cette émission au Dialogue entre Congolais. Au sujet de la CPI, le procureur de cette Cour internationale appelle à une reprise des efforts pour l'arrestation de son chef, Joseph Kony, et ses principaux commandants. La CPI évoque notamment des tueries, pillages et enlèvements de 1000 personnes dans le but d'élargir leur rang. Pour cela, le bureau du procureur demande la collaboration de tous les intervenants dans la RDC et l'Ouganda en vue de planifier et d'exécuter ces arrestations. On écoute Paul Madidi, chargé de la communication à la CPI RDC. Il est dit au téléphone de Lini Ngumba Mulongo.
L'Ouganda, comme la République démocratique du Congo, sont ce qu'on appelle des États parties, c'est-à-dire des États qui ont ratifié le statut de Rome, qui reconnaissent la compétence de la Cour pénale internationale, et donc, au regard du statut de Rome, ont obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale en arrêtant notamment les personnes qui font objet de mandats d'arrêt.
Est-ce que la CPI attend un concours de la MONUC?
La Cour pénale internationale attend de tous ceux qui peuvent aider à exécuter ce mandat d'arrêt de le faire. C'est juste un rappel de la part du procureur à la communauté internationale, aux États frontaliers, de ne pas oublier que Joseph Kony, ses amis, sont déjà objets de mandats d'arrêt.
Alors, est-ce que la RDC est prête à coopérer avec la CPI pour l'arrestation de Joseph Kony? Peut-être rapidement avec le vice-gouverneur Joseph Bangaka avant d'avoir le point de vue de Benoît Kinalego et Donatien Kinesia. Bien entendu, Joseph Kony depuis longtemps est sous le coup d'un mandat d'arrestation, d'un mandat international, et son organisation est classée parmi les organisations terroristes. Cela est clair, et c'est ainsi que dans le cadre du vaste plan que nous avons mis en œuvre, nous travaillons étroitement avec les forces armées du Soudan. L'Ouganda aussi prend ses responsabilités, et avec l'appui de notre partenaire la MONUC, nous comptons très bien prendre la LRA en étau et déférer Joseph Kony ainsi que ses principaux commandants devant la Cour pénale, internationale.
Alors, Monsieur l'abbé Benoît Kinalego, vous pensez que Joseph Kony, qui est le chef de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, vous pensez qu'une fois arrêté, vous aurez la paix dans Dungu? Monsieur l'abbé Benoît? Monsieur l'abbé Benoît, on l'a perdu. On revient alors, on l'aura. J'espère que Claude Kanza s'active avec Guy Matisse et qu'il fait tout pour le retrouver. Dans la série Kinesia, je vous repose la même question. Vous pensez que l'arrestation de Joseph Kony peut aider à restaurer la paix dans cette partie d'Ongadongo?
J'ai aussi cité les contextes dans lesquels nous sommes sur le plan sécuritaire. et c'est un contexte extrêmement complexe, si bien que la question de la sécurité là-bas, on ne peut pas l'envisager à terme d'individus Kony et consorts. Arrêter Kony, c'est une bonne chose. Encore faudrait-il que, dans le cadre de la participation de notre pays dans cette collaboration-là, que l'armée de notre pays arrive à maîtriser d'abord les éléments des Kony avant de parler de la réalisation. Moi, j'ai peur qu'on fasse ici des affirmations comme ça. Et on n'a pas encore maîtrisé les éléments, mais on ne sait pas comment faire ça. Mais quant à la sécurisation effective de la situation là-bas, je pense que arrêter Kony ou ne pas l'arrêter, ce n'est pas tout de suite la solution. Il est souhaitable qu'on l'arrête, ça c'est vrai, mais ce qui nous importe plus maintenant, c'est la sécurité de nos populations. Ils sont là, on est en train de les tuer pendant que les militaires sont là. Donc c'est ça qui nous préoccupe au premier plan.
Parce qu'on est sécurisé d'abord.
La population. La population.
Oui. Mais alors, à Kisangani, dans votre province, la province que vous dirigez, Joseph Bangakia, en tant que vice-gouverneur de cette province, le groupe Lotus dénonce les attaques meurtrières perpétrées par les rebelles ougandais dans quelques localités, et notamment les territoires de Dungu dont nous parlons. D'après cette organisation de défense des droits de l'homme, cette énième attaque des NRA en territoire congolais dénote du manque de volonté politique de la part du gouvernement congolais pour sécuriser les populations civiles. Monsieur le vice-gouverneur, est-ce que vous pensez avoir suffisamment de volonté pour régler cette question sécuritaire, d'insécurité à Dongo? Ou ce sont des discours juste pour peut-être calmer un peu la population?
Non, mais au mois d'avril, et je veux vous dire, en fait, moi je parle de quelque chose que je connais. J'y suis allé. J'ai rencontré les Mororo, j'ai été à la frontière avec le Soudan, avec la République centrafricaine, dans une localité qui était visitée 4 jours après mon départ par la LRA. Je sais de quoi je parle. Et je suis loin de toute dénonciation, gesticulation. Je suis dans la réponse aux préoccupations de mes concitoyens. Et je vous dis que depuis que ce problème existe, c'est la première fois qu'un gouvernement prenne ses responsabilités. Et donc, c'est au mois d'avril que j'étais là-bas, j'ai parlé à la population, qui bien sûr, avec à juste titre, était dubitatif, mais 3 mois plus tard, les troupes ont commencé à descendre. C'est vrai, l'effort, nous devons le parfaire. Et je reconnais que même si nous avons enfin pris nos responsabilités,
oui,
que nous pouvons et nous devons, je crois que c'est l'une des priorités fixées au prochain gouvernement, faire du problème de la sécurité à l'est et au nord de notre pays une question fondamentale.
Puisqu'on a retrouvé l'abbé Benoît Kinalego, abbé Benoît, je vous repose la même question sur l'arrestation qui est souhaitée, prônée par la Cour pénale internationale. Vous êtes sûr que Joseph Kony, une fois arrêté, vous aurez la paix à Dongo, parce que là, je vous signale déjà qu'il y a le député donatien, député national, donatien Kinizer, lui, il dit que arrêter Joseph Kony, oui, mais l'important et la priorité, d'après lui, c'est d'abord vous sécuriser ce place. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, cette arrestation peut mettre fin à l'insécurité dans le coin. Et c'est le seul groupe armé maintenant au nord, à l'extrême nord du pays, qui sème la désolation au sein de notre population. Et puis, qui occupe progressivement, j'y reviens, le territoire du Dungu, dont presque les 3/4 leur appartient pour le moment. Et cette arrestation, non pas seulement pourrait amener la sécurité dans les territoires, mais cette arrestation constituerait aussi un problème de moins parmi tant d'autres problèmes qu'on aurait résolus sur le plan sécuritaire pour la RDC.
Mais est-ce que arrêter Joseph Kony aujourd'hui, ce n'est pas vous exposer, comme l'a dit encore le député national Donatien Kimilia, au moment où les FARDC ne sont pas encore en mesure de faire face aux éléments de Joseph Kony?
Bon, nous exposer, ce n'est pas question de nous exposer. Le problème est que Joseph Kony est en train de commettre des exactions sur la population de Dungu. Est-ce qu'il faut les laisser continuer à commettre ces exactions avec ces hommes? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Il faut mourir en silence? Je ne crois pas que ce sera la solution.
Bon, on a posé la même question, toujours sur l'arrestation. Oui, Kanindia, on va revenir à vous. Permettez
qu'on... Je vais rectifier quelque chose.
Allez-y rapidement.
Oui, après, je ne me suis pas opposé à l'arrestation de Joseph Kony. Non. Moi, je dis, l'arrêter, c'est souhaitable. Faudrait-il encore qu'on maîtrise ces hommes? Parce que l'arrêter suffit qu'il faut d'abord maîtriser ces hommes, c'est un processus. C'est pourquoi je dis, la priorité pour le moment,
c'est
d'abord empêcher que ces hommes ne continuent à perpétrer tout ce qu'ils ont fait pour faire la suite de la population.
Oui. Bon, je vois le vice-gouverneur qui semble... c'est quoi le problème, monsieur le vice-gouverneur?
Non, je dis que... Vous voyez, l'abbé Kinalogo, il vit avec la population, il connaît ses problèmes parce qu'il est sur le terrain. Et je constate, la grande distance qui sépare l'abbé qui est sur terrain de l'honorable Kanindia. En fait, la vérité, et cela est classique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement neutraliser le commandement. Et la CPI a donné une ébauche de ce que, qu'est notre stratégie. Joseph Kony est le principal commandant. Et bien entendu, comme...
Ça sera un peu décapité,
son mot. Bien entendu, et c'est un classique dans toutes les rébellions, dans toutes les forces anti-citoyennes, on l'a connu même dans la ville de Kinshasa. Mais il suffisait que le chef ne soit plus là pour qu'on voit absolument les troupes être réduite à leur plus simple expression. Mais bien entendu, nous allons aussi, et c'est ce que nous faisons, nous allons nous employer aussi à réduire pratiquement les miliciens
de la LRA. Bon, on a posé la question, de toute façon, à la société civile de Dungu à propos de l'arrestation prônée de Joseph Kony. Et justement, on écoute Félicien Mbalani, qui est joint au téléphone par Guy Maté.
Si Joseph Kony a préparé quelqu'un pour les remplacer, son arrestation ne résoudrait aucun problème. C'est-à-dire que la guerre peut continuer. Même si Joseph Kony est arrêté, il y aurait toujours quelqu'un pour les remplacer. Nous, notre préoccupation, c'est de démanteler complètement la LRA de notre région. Par des moyens militaires, parce que maintenant, on a essayé toutes les procédures, les négociations, ça marche pas. Mais maintenant, il faut des moyens militaires pour les déloger de chez nous, parce que le bilan commence à s'allonger énormément. Les éléments de la FRDC sont à Dungu ici, mais ils nous disent qu'ils sont plutôt en position de défensive. Nous autres, nous ne comprenons pas cette affaire-là de défensive. Parce que nous, on attendait une FRDC qui viendrait nettoyer notre région de la LRA. Mais ils viennent, ils disent qu'ils sont là pour la défensive, ils attendent protéger la population quand la LRA les attaque. Mais depuis qu'ils sont là, on a déjà essayé pas mal d'attaques de la LRA, mais cette défensive-là, vous voyez, ça ne paye pas.
Monsieur l'abbé Benoît Kinalogo, vous êtes président de la commission diocésaine justice et paix de Dungu dans la province orientale. Et à votre avis, quelle solution alors pour mettre fin à l'insécurité qui est semée par ces rebelles de la LRA, ces rebelles ougandais?
La solution est pratiquement de neutraliser cette force négative qui est dans notre région. Nous sommes en train de subir une guerre extérieure. Nous ne connaissons pas du pays. Il faut neutraliser et arrêter les commanditaires et les juger selon les normes des traités de Rome.
Oui, mais la société civile, vous venez de suivre son président, Félicien Mbalani, lui, il dit qu'il faut renforcer d'abord les FARDC et que les FARDC passent à l'attaque et non rester à la défensive.
Bon, je ne pense pas que les FARDC aient devant se renforcer jusqu'à maintenant. Je pense que le nombre qui est sur terrain peut quand même se défendre, peut même neutraliser cette force-là. Je ne crois pas que ce soit impossible pour notre armée, à laquelle nous croyons et nous avons foi, qu'elle peut nous défendre. Et je ne crois pas qu'elle soit impossible, elle est capable de démanteler ces foyers de rebelles.
Donc, à vous entendre parler, le déploiement des FARDC qui se fait à Dungu est déjà suffisant pour défendre Dungu.
À mon avis, c'est vrai, oui.
Alors, qu'est-ce qui empêche cette armée de vous défendre?
Bon, là, ça c'est une stratégie qui relève de la stratégie militaire, ça relève de la stratégie militaire. Comme je l'ai dit, nous souhaiterions que la réaction soit rapide et efficace. Mais comme nous ne pouvons pas entrer dans la stratégie militaire, il est difficile de voir, de dire qu'est-ce qui empêche notre armée d'attaquer la LRA.
Donatien Kaninzia, député national MSC, il y a cette autre solution que propose Dismas Kitenge, le président du groupe Lotus. Lui, il propose en fait la mise sur pied d'une commission mixte Congo-Soudan-Ouganda avec l'appui de la communauté internationale pour régler cette question de la LRA.
Ça, c'est la solution durable et à long terme. Parce que je vous ai dit que les systèmes de guerre se situent au niveau de toute la sous-région. Je n'y rêvais plus. Mais pour en arriver là, j'ai dit si on a commis l'erreur de n'avoir pas mis l'accent sur la sécurité. La priorité, parce qu'il faut que chaque pays mette en place une armée conséquente, cela devait être la priorité des priorités, et c'est tout cela qui nous manque. Je vous ai dit que je suis de ceux qui je ne crois pas à la thèse sur laquelle nos forces armées sont capables. Je l'ai dit ici, il y a un problème politique, un problème de motivation, un problème de discipline. Parce que ce sont les mêmes éléments qu'il faut passer à les années avec qui j'étais à la bourse. Comment passer de l'autre côté ne peut-être la magie de faire les choses correctement. C'est ça, les hommes de tout cela. Comment peut-on continuer à parler de défensive pendant que les jeunes civils s'organisent pour essayer de faire face? Allez-y comprendre. Et j'ai appris que le pape a laissé courage. Je pense que il faut vraiment compatir avec cette population-là. Et parce que les militaires sont là, si les civils se battent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si les civils ont le courage, pourquoi les militaires disent? Parce que c'est une question de vie. La défense sera jusqu'à quand? On supprime des vies humaines. Des rebelles étrangers suppriment des vies humaines de façon, donc sans être inquiétés, ça qui est une force qui défend sur place la population. Bon, on fait quoi? Les jeunes s'organisent à leur manière. Donc demain, on dira encore peut-être c'est une milice et tout ça. C'est comme ça que les gens développent l'idée d'autodéfense. Je l'ai dit, cela n'a pas passé. Voilà. C'était dangereux. Donc il faut que les militaires entrent en action parce que c'est une question des vies de nos concitoyens qui sont en train d'être supprimés. Nous parlons ici, peut-être qu'on continue encore à parler en termes de stratégie, mais dans l'après-temps, on ne sait pas si que les mêmes rebelles ougandais sont en train de planifier. Alors, on fait quoi?
Merci beaucoup. Monsieur le vice-gouverneur, alors, pourquoi les FARDC sont à la défensive là-bas?
Non.
Et c'est pour que les jeunes soient à l'offensive et que les FARDC restent à la défensive?
Non, premièrement, je ne peux pas rester insensible. Après la déclaration consternante faite par mon prédécesseur, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas d'un côté les FARDC qui boivent du champagne, qui bivouaquent, et de l'autre côté des jeunes gens courageux qui prennent leur courage.
On a entendu.
Non.
Il a dit, vous avez suivi le son.
Non. Non, il n'a pas dit cela.
Non, il a dit que les FARDC sont la défensive. C'est comme ça qu'il répond.
Exactement. Donc, non.
Absolument ça, vous avez suivi le son.
Non, mon cher ami. Plaçons-nous, je vous en prie, dans le contexte qui est le nôtre, où la population souffre et il faut une réponse responsable. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Et donc, nous avons déployé des militaires qui sont là de presque partout à travers la République. À Kisangani,
pas pour
de Kisangani à Dungu, oui. On ne va pas faire 2000 km pour qu'ils aillent boire du champagne, mais maintenant, à partir de Dungu, les militaires commencent à prendre position.
Merci beaucoup.
Bien entendu, la présence de l'armée, si vous le comprenez, pour défendre la patrie, et je n'accepterai pas qu'on traîne les FARDC dans la boue. Ils sont là, prêts à vendre, à perdre leur sang, à vendre leur...
Comme les jeunes civils l'ont fait.
Oui, pour défendre leur patrie. Mais je vous rassure que les craintes, les souffrances des populations de Dungu arrivent à leur terme. C'est vrai que nous attendons avec eux en compatissant, mais bientôt, ça sera la fin.
Nous prenons d'abord notre réaction de la population, puisque vous promettez la paix à cette population. Et Poutou est là pour ça. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. Ignace Mpiodo Kananga au Kasaï occidental pense qu'aujourd'hui, le pouvoir congolais s'est montré incapable de défendre le pays devant les rebelles en abandonnant la misérable population subir ces attaques. Peut-on espérer qu'il va arrêter Joseph Kony et les autres, et cela de quelle manière? Si le gouvernement n'envisage pas de négocier avec la LRA, pourquoi alors n'est-il pas non plus chaud à déployer ses troupes à Dungu pour mater complètement ce mouvement rebelle qui vole, viole et puis... Question de Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu.
Et puis, longo
de Kalemi au Katanga, dit ceci, sécuriser la population, c'est une priorité des priorités. Attends le gouvernement pour envoyer les parts d'essai, s'interroge-t-il.
On va à Tikwit.
À Tikwit, au Bandundu, Stanley, Santini, estime que pour la RDC, le problème de la sécurité doit être une vision de premier plan, tant au niveau national qu'international, pour bien décoller.
Et enfin.
Enfin, Madraké Léry Gobert, il est étudiant à l'ISP Bounia. En province orientale, il se demande pourquoi la communauté internationale et les institutions de la RDC laissent les citoyens congolais dans une telle humiliation. Quelles sont leurs priorités?
Merci beaucoup, Christine Toutou. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander d'essayer de résumer un peu vos réponses. Et puis, on commence par celui qui n'a pas beaucoup parlé. Il s'agit de l'abbé Benoît Kinalego. Je rappelle que vous êtes président de la commission diocésaine de justice et paix de Dungu dans la province orientale. Essayez de répondre rapidement à Stanley Santini de Kikuit au Bandundu. Lui estime que pour la RDC, le problème de la sécurité doit être une vision de premier plan, tant au niveau national qu'international, pour bien décoller. Est-ce que vous partagez cet avis, M. Lavé?
Oui, je partage l'avis, mais j'ajoute que pendant que les structures sont à peu de se monter, pendant que les systèmes de vision sont à peu de se construire, et c'est le système de vision, c'est pour qui? C'est pour la population, c'est pour la terre tout simplement. Je pense que il faudrait cette vision doit être à long terme et à court terme. Et présentement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, et après il faudra alors envisager d'autres solutions à long terme.
Merci beaucoup. Nous avons Madraké Léry Gobert, qui est étudiant à l'ISP Bounia. Lui, il se demande pourquoi la communauté internationale et les institutions de la RDC laissent les citoyens congolais dans une telle humiliation. Monsieur le vice-gouverneur Joseph Bangakia, vous avez l'impression que la communauté internationale et les institutions internationales vous abandonnent?
Bien, premièrement, je comprends tous les messages qui nous ont été envoyés. C'est un cri du cœur. Je les prends en responsable. Il faut que nous apportions une réponse durable et rapide à cette préoccupation.
Oui.
Les parts d'essai sont là.
Et les parts d'essai ne sont pas seules.
Vous pouvez répondre rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup.
Oui, je dis que les parts d'essai ne sont pas seules.
Ouais. Nous avons l'appui de la MONUC.
Oui.
Et bien entendu, la communauté internationale s'est fortement investie car nous avons ouvert une brèche, on n'a pas pu en parler, avec le processus de Djouba qui a permis de déstabiliser l'organisation de Joseph Kony qui actuellement, en termes de combattants, est évalué à moins de 700 personnes.
Oui.
Donc, c'est pour dire que la RDC n'est pas seule. C'est vrai que le calvaire a été long.
Le soutien, là,
le soutien, il existe. Et bien sûr, les premiers à prendre leurs responsabilités, ce sont les institutions de la République. Nous les avons fait, car nous avons envoyé les phares d'essai qui, très bientôt,
oui,
vont commencer les opérations.
Ça fait une promesse du vice-gouverneur de la province orientale. Hein?
Oui, et bien sûr, nous représentons le gouvernement en province, donc je parle aussi au nom du gouvernement de la République.
Merci beaucoup. Alors, Donatien Kaninzia, député national MSC, élu du territoire d'Arou, il y a Longolongo de Kalemi au Katanga, lui, il dit que sécuriser la population est une priorité des priorités. Il se demande ce qu'attend le gouvernement pour envoyer les phares d'essai. On a suivi, les phares d'essai sont présents à Dungu.
C'est exactement ce qu'on a dit ici. Nous avons dit que les problèmes sont anciens. Ça fait 2 ans que les institutions sont là. Les problèmes déjà connus. Les définitions des priorités n'ont pas été conséquentes. La sécurité a été pratiquement oubliée. C'est tout cela le problème. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, je l'ai dit, c'est en tout cas de faire un effort pour sécuriser cette population-là. Et je dis que pour l'armée, même s'il faut aller chercher des fonds en dehors du pays, en dehors du budget, il faut le faire. Nous avons fait les budgets de 3 milliards, ça c'est sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, c'est moins de 2 milliards. Il faut compter avec tout ce qu'il y a comme détournement qu'on sort et confiner la réforme de l'armée dans tout cela aujourd'hui. Non, c'est difficile. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que l'armée soit reconstituée. Et je vous l'ai dit, la population n'a pas de théorie, ceci, cela. La population veut qu'on arrête, qu'on continue à les supprimer. C'est cela que la population attend. Voilà.
Peut-être en 5 secondes, je pense que la situation de Dongo ne suffit pas. Il y a la question de Bounia aussi, avec le recrutement des personnes venues de l'Ouganda. Je pense que là aussi, au service du bonheur, vous allez trouver des réponses. Hein. On espère.
Oui, bien sûr, nous sommes responsables. Merci. Et je comprends le peuple. Nous allons travailler pour ça, nous-mêmes là.
Oui, c'est la fin de cette émission. On remercie Kofianza qui était à la réalisation, Eric et Sylvia Kala qui était à la technique. Merci, c'est la fin de cette émission.